טוב, שלום לכולם, תודה רבה m'a permis de venir essayer de développer avec vous dans la scène ce soir un thème qui rassemble un petit peu toute la période dans laquelle nous sommes dans la lecture de la Torah et en même temps relier tout le système de la sortie d'Égypte à la fête que nous venons de passer, tout l'Israël, avec les fruits d'Israël, bien entendu. Alors, que le cours soit pour la réfoua, Clema de Michal Bat Yahel, Aaron Ben Mira, David Ben Simona, Aaron Ben Michal, Yaakov Ben Michal, Emuna Mitzriya Yehudit Bat Tema, Zora Bat Masouda, ולהבדיל בין המתים לחיים לעילוי נשמת גרציה בשלומית יאיס בן עליה. Pour comprendre le thème le plus important de notre vie, il faut étudier la sortie d'Égypte. Quand je parle du thème le plus important de notre vie, c'est la libération de l'étincelle divine qu'Akadosh Baruch Hu a planté à l'intérieur de chacun de nous, qu'on appelle la Sgoula Israéli. Nous avons une pierre précieuse à l'intérieur de nous-mêmes et nous devons la libérer, la faire sortir, la dévoiler, traduire le potentiel en réalité. Si on arrive à traduire ce potentiel, à le vivre, ce geste, cette action de traduire une pensée en acte s'appelle une sortie de vie. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, il ne faut pas s'arrêter, être bloqué à l'histoire d'un peuple qui était en Égypte et qui en est sorti. C'est vrai. La Torah nous raconte l'histoire d'un peuple, du peuple d'Israël, qui est en Égypte et qui doit sortir d'Égypte. Mais en réalité, ce thème est tellement important que les sages nous disent que si tu veux comprendre tout le processus de la délivrance du peuple d'Israël, tu dois étudier l'exil d'Égypte et la sortie d'Égypte. Parce que si tu comprends ce secret, la matrice de toute la délivrance d'Israël se trouve aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les exils sont codés, sont codifiés dans l'exil d'Égypte, et toutes les délivrances, elles aussi, sont codées dans la délivrance d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est donc libérer l'étincelle divine et la dévoiler. Au moment où on est en Égypte, il n'y a pas encore l'apparition du peuple. Le peuple est une découverte qui vient de l'Égypte. C'est-à-dire grâce à notre situation apparemment paradoxale de blocage, de prison en Égypte, on va dévoiler la partie la plus intime que nous ayons tous, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Je ne veux pas mélanger toutes les notions parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais la partie la plus intérieure que nous avons tous s'appelle Neshama, mais en réalité, elle s'appelle aussi Am Israël. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël n'est pas l'ensemble des individus. C'est une notion spirituelle qui précède les individus. La force de notre identité se dit en hébreu nous. Mais nous. Qui tu es? Qui es-tu? Si ce nous, cette identité de qui je suis, se trouve emprisonné, en hébreu Netzar, donc le nous est en Netzar, Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'Égypte, traduction, prison de l'identité, emprisonnement de l'identité. Donc tu peux être tout à fait dans un état d'Égypte, même si tu n'es pas physiquement dans la terre qui s'appelle Égypte. Parce que tu es bloqué, ton identité la plus intérieure qui s'appelle nous n'est pas encore libérée. Nous est en valeur numérique en hébreu 50. C'est la combinaison de deux lettres, le même et le yud. Vous savez que chaque lettre a une valeur, a un poids. Le même en hébreu c'est en valeur numérique 40. Et le Yud 10. Ça veut dire que notre identité la plus intérieure pèse 5 ans. Pourquoi elle pèse 5 ans? Tout simplement parce qu'elle est au-delà de la nature. La nature étant basée sur le chiffre 7. Tout ce qui est naturel est basé sur le chiffre 7. Et on a beau faire des multiplications de ce 7, ça reste toujours dans la nature. C'est-à-dire 7 fois 7, c'est encore 49. Mais lorsque j'atteins le chiffre 50, c'est que j'ai dépassé la nature. Or, l'âme d'Israël dépasse la nature. Elle est au-delà de la nature. Mais il faut la dévoiler. Le chiffre 50, comme par hasard, c'est le chiffre, c'est le nombre de fois que la sortie d'Égypte est marquée dans la Torah. 50 fois la sortie d'Égypte est marquée dans la Torah. Et le Zohar nous dit qu'il y a ici une référence, une allusion à la libération de 50 degrés que nous avons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre identité la plus profonde. Lorsque j'arrive à sortir d'Égypte, c'est que mon identité donc va se réaliser. Et donc je vais réaliser le moi le plus profond et je me libère. Cependant, pour libérer cette force qui est en nous, il faut traverser certaines étapes qui sont difficiles. Alors je vais vous donner juste un exemple au niveau du corps humain et vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous avez une idée qui est très importante dans votre tête, mais que vous n'arrivez pas à la réaliser par vos mains, par vos actes, vous êtes en Égypte. On peut avoir de belles idées dans la tête, mais si on n'arrive pas à les vivre, on s'appelle en Égypte. On est dans un exil d'Égypte. Ça veut dire que la force qui circule à l'intérieur de mon cerveau, remarquez bien que la tête de l'homme est ronde, c'est-à-dire qu'elle est de l'ordre de l'infini, on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça termine. Et dès que nous descendons vers le corps, nous sommes déjà dans des parties rectilignes. C'est-à-dire qu'il y a des directions. Donc du rond, de la sphère, de l'infini, je dois passer au fini. Et pour passer de l'infini au fini, je dois traverser un canal qui s'appelle le cou, la gorge. Et ce canal est étroit. En hébreu, il porte bien son nom, il s'appelle Tsavar, qui porte, comme par hasard, les lettres de Tsar. Tsar, qui veut dire étroit, donc Mitzrayim, je trouve l'Égypte. Donc l'Égypte, elle se trouve où dans le corps humain? Dans ce passage étroit, qui normalement doit relier la pensée, la tête, à l'acte. En hébreu, puisque c'est une langue divine, le responsable de cette gorge étroite s'appelle la nuque, en hébreu, Oref, comme par hasard les mêmes lettres que Paro. Donc le roi d'Égypte se trouve où? Juste à la sortie de ma tête, donc de l'infini, au passage qui se trouve ici, là où les hommes posent le dalet de leur tchilim de la tête. Pourquoi? Parce que justement, toute la force d'Israël, c'est de prendre le cerveau droit et le cerveau gauche, donc les deux lanières des Philippe, et de les traduire dans leur vie, en acte. Donc vous avez deux lanières qui, à partir de ce nœud ici, pour annuler ce pharaon, la lutte, vont dire au pharaon, tu ne nous gênes pas, on va te doubler, on va quand même traduire la pensée en acte, donc vous avez deux lanières qui descendent tout le long du corps. Traduction de la pensée en acte. Et comme par hasard, sous ce pharaon-là, il y a le Saramaskim, le Saratabachim et le Saraofim. C'est-à-dire celui qui sert à boire, celui qui sert à manger et celui qui fait vivre. Donc la trachée, l'œsophage, tous ceux qui sont ici. Les noms des serviteurs du pharaon se trouvent même codés à l'intérieur des membres qui nous font traverser, devenir pensée, qui va devenir un acte. Incroyable. Et d'ailleurs, si vous prenez les initiales de ces trois, le Sahara Tabachim, le Sahara Maskim et le Sahara Ophim, vous avez les trois lettres, Tet, Mem, Aleph, en hébreu, Tamé. Impur. Alors en français, on traduit par impur, mais c'est une fausse traduction, car toute traduction est une trahison. Tamé ne veut pas dire impur, veut dire bouché, imperméable. En hébreu, atum. Si je n'arrive pas donc à sortir, à dévoiler, à ouvrir ce que j'ai dans mon infini tête, parce que j'ai un problème ici par le pharaon et ses trois serviteurs, qui vont essayer de bloquer, de m'étouffer au niveau de la tête, je ne sors pas de vie. Il va falloir donc que je trouve un Moshe Rabbeinu qui va me faire sortir, qui va m'aider à trouver la ligne vers quoi ? La ligne qui va m'accompagner, qui va me faire sortir de mon idée, donc Égypte, et qui va m'amener vers mon corps, vers la terre. Donc la sortie d'Égypte pour aller dans une direction et arriver à la terre d'Israël. Moralité, je vous ai juste raconté toute l'histoire d'Égypte dans notre vie individuelle et collective. Individuellement parlant, vous devez tous, on doit tous, dévoiler, sortir, décoder notre nous, identité intérieure qui se trouve dans notre plus profond cerveau, et le réaliser dans nos actes de tous les jours. Donc vivre mon judaïsme. Et au niveau collectif, tant que le peuple d'Israël n'est pas sorti, libéré, retrouver son identité et revenir vers sa terre, il est encore dans un état d'exil d'Égypte. Et donc voici toute notre histoire. Seulement pour arriver à sortir de la tête et arriver aux jambes, parfois ça prend 40 ans. 40 ans de désert, 40 ans de difficulté, 40 ans de blocage, parce que traduire ce que j'ai à l'intérieur de moi et le vivre, c'est le travail de toute une vie. Et parfois les hommes arrivent à ce degré-là à la fin de leur vie. Mais c'est pas grave. Le chemin, lui aussi, a une importance. Pas que le but. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on a un problème. On a l'impression que les buts sont importants, mais que tous les jours qui nous amènent vers ce but ne valent rien. C'est faux. Chaque jour qui passe, je me libère un peu plus. Alors si quelqu'un vous dit l'année dernière de penser que le Mashiach allait venir, mais il n'est pas venu, il se trompe. L'année dernière, le Mashiach est venu pour l'année 5766. Et cette année, le Mashiach vient pour l'année 5767. Je veux dire par là que chaque année, que chaque jour, nous libérons un peu plus de l'Égypte parce que nous sommes un peuple qui marche. D'où vient ce peuple qui marche ? Du premier ordre qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham, Lech Lecha, qui se traduit en français, va vers toi. C'est-à-dire, retrouve-toi. Lech Lecha, tu as une direction. Tu dois partir pour retrouver ton identité la plus profonde. C'est pas de marcher dans le vide. Or, nous sommes un peuple qui marche. Et chaque pas, bien que chaque pas soit dans le déséquilibre, puisque le fait même de marcher nous place dans un déséquilibre naturel à chaque fois, celui qui ne marche pas, il est sur deux pieds. Mais il n'avance pas. Il est bloqué. Alors que celui qui marche est toujours sur un pied. Donc il est toujours en déséquilibre. Il avance. Donc il ne faut pas avoir peur de déséquilibre, ça fait partie de notre force pour avancer. Ceux qui ont peur de rester sur une jambe n'avancent pas. Mais ceux qui avancent sont toujours sur une jambe. Un coup c'est la jambe droite, un coup c'est la jambe gauche. C'est ou bas. C'est ou bas. C'est ou bas. Elle sort, elle revient. C'est une marche. Ça va. C'est l'armée. C'est ou bas. La traduction donc de la pensée en acte, elle passe par une traversée de désert. C'est très facile à comprendre. La traversée du désert, c'est une traversée très difficile qui ne montre pas un chemin très clair. On ne sait pas trop vers quoi on va. En tout cas, on a une émouna de fuir, de poursuivre, de continuer à marcher. Et je vais vous dire quelque chose, même si on râle en chemin,
on doit râler en marchant. Ça veut dire que celui qui râle et qui s'arrête, il est mort. Il y a une mishna extraordinaire qui correspond à tout l'Ishvat et qui dit la chose suivante. Celui qui est en train d'étudier sa mishna et qui s'arrête parce qu'il vient de voir un bel arbre et il se dit, quelle merveille, cet arbre est magnifique. La mishna continue, Harez ben Itrayev ben Asos. Celui-ci, cet homme-là est condamné à mort. Pourquoi? La nature ne fait pas partie de Dieu. Les Chachamim nous expliquent que la faute de cet homme, c'est de s'être arrêté. Il doit continuer à étudier et intégrer même les belles arbres qu'il vient de voir dans son étude. C'est pas, j'étudie, j'arrête pour voir l'arbre. Non, ça veut dire que je sépare deux mondes. J'ai le monde de l'étude et le monde de la nature. C'est une faute très grave. C'est une faute qui sépare encore une fois la tête, l'esprit, de la matière, du corps. Le peuple d'Israël a un seul but, c'est que l'esprit se retrouve et se dévoile dans la matière. On appelle ça l'échelle de Yaakov. La tête de l'échelle se trouve dans le ciel et le bas de l'échelle se trouve bien planté sur terre. Sinon, tu es un flâneur, je ne sais pas ce que tu es, mais tu n'es pas un homme d'Israël ou une femme d'Israël. Un homme et une femme d'Israël doivent avoir la tête dans le ciel, mais les pieds sur la terre. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas cette force d'avoir les pieds sur la terre ont toujours des problèmes avec leurs jambes. En hébreu, les jambes se disent « raglaim ». Et ceux qui ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël pendant la traversée du désert s'appellent « meraglim ». Ceux qui ont des problèmes de jambes. C'est-à-dire ceux qui ne comprennent pas que la Torah ne peut pas se vivre dans l'esprit, mais qu'elle a un lieu naturel pour le vivre, la terre d'Israël. C'est-à-dire qui ne comprend pas que sa vie Israël se trouve uniquement sur cette terre, un problème de jambes, un problème de réalisation. Et c'est pour ça que la Torah se fatigue, entre guillemets, à lui donner sans arrêt les frontières de cette terre. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas une frontière, tant qu'il n'a pas une limite, il ne peut rien dévoiler. S'il veut boire ce liquide, c'est les limites de ce verre qui m'ont permis de le recevoir. Si je n'avais pas de limite, je n'aurais pas pu boire. Donc il y a un paradoxe. Je veux donner quelque chose et je le limite. Justement parce que tu donnes des mesures, tu peux dévoiler. Sortir d'Égypte, c'est pas partir dans le désert n'importe où. Il y a une direction, il y a un ordre. Et c'est pour ça que l'ordre de la sortie d'Égypte et des enfants d'Israël qui marchent en ordre dans le désert, parce qu'ils vont quelque part, en réalité, si je résume tout, ils reviennent vers l'ordre naturel, le vrai. Et là, nous rentrons dans une notion qui est beaucoup plus profonde. Malheureusement, 2000 ans d'exil nous ont massacré la santé spirituelle et nous ont fait croire que nos actes religieux nous faisait juif. Donc quand vient en Eretz Israël, on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est parce que je fais partie du peuple juif que je fais ces actes. Pas l'inverse. Ça veut dire que si tu crois que ton judaïsme est un ensemble d'actes religieux, tu es tombé dans la religion. Le judaïsme n'est pas une religion. C'est d'abord une nature. Et les actes qui s'appellent mitzvot ne sont ni plus ni moins que le respect de cette nature profonde que j'ai en moi. Je ne mange pas kasher parce qu'un Dieu qui se trouve en dehors de moi vient me braquer avec une mitraillette et il me dit « mange kasher ». Pas ça du tout. Ce Dieu est déjà rentré à l'intérieur de nous. Nous sommes remplis de divin. Et l'ordre ne vient pas du dehors vers le dedans, mais du dedans vers le dehors. Quand tu manges ta chair, tu réalises, tu respectes ta vraie nature qui se trouve déjà à l'intérieur de toi. Et si vous pensez que Dieu est dehors, ça veut dire qu'il est loin.
Chaye olam nata betochen. La vie éternelle se trouve à l'intérieur de nous. Donc tous les actes que nous faisons viennent de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Dans la bracha, à la michia, à la kalkala, à la vatasade, on appelle en hébreu bracha me'en salos. Okay? Vous connaissez bien cette bracha, à la gefen, à la tria gefen, à la perot, pas la birkat amazon, mais la petite birkat amazon, après avoir mangé un gâteau par exemple, ou avoir bu un verre de vin. Cette bracha est liée aux sept sortes d'aliments, c'est tout du tout. Kakadosh Baruch Hu a gratifié la terre d'Israël. Comme il est écrit, Venochal Mipiria Venisba Mituva. Mangeons de ces fruits et rassasions. C'est pas mal en natal, hein, malade. Rassasions-nous. Vous avez compris. Donc, on va se rassasier, plus facile, de cet aliment. Eh bien, écoutez bien ce qui s'est passé. Quand cette bracha a été codifiée par nos sages, certains ont eu du mal. Et ils se sont posé la question, comment on peut faire une chose pareille? Dire qu'on est venu en Eretz Israël pour manger des fruits, se rassasier des fruits d'Israël, c'est ça la Kedusha? C'est ça la sainteté? C'est ça que tu as voulu que je devienne? Un homme qui mange des fruits? Moi, je voulais être un homme spirituel, une femme spirituelle, un homme d'Israël, c'est un homme du ciel. T'es en train de me faire descendre au niveau des fruits? Le Baal Tradas, qui est le commentateur essentiel, dit la chose suivante. Alors que du Satar et Simadiam, du Sahayona, vous ne comprenez pas que la sainteté du ciel s'habille dans la sainteté de la terre. Vous ne comprenez pas que le ciel se traduit en terre dans un lieu spécial du monde qui s'appelle la terre d'Israël. Vous ne comprenez pas que tant qu'un fruit n'a pas capté la force divine, le monde n'est pas encore arrivé à sa réalisation. Akadosh Baruch Hu ne doit pas rester dans le ciel. Akadosh Baruch Hu doit venir sur terre. Rasta Kadosh Baruch Hu l'asot le dira batartonim. Il a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, c'était pour se réaliser dans le monde le plus bas, dans la matière la plus petite, la plus simple. Bien entendu qu'il faut faire ça. Bien entendu qu'il faut prier Benisba Mituva, Benochal Mipiria. Bien entendu, je dois manger les fruits. Parce que lorsque je mange les fruits, dit le Baal Tradas, en réalité, je ne mange pas les fruits. Je mange le saint qui s'habille dans ses fruits. La Kedusha d'Eretz Israël qui s'habille dans le fruit. Le Rav Kook Zatzal nous donne un chidouche extraordinaire. Il nous dit, vous savez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai est allé se cacher dans une caverne? Il devait écrire son livre, le Zohar. Mais ce n'est pas un idéal d'étudier la Torah dans une caverne, en s'échappant du monde. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Vous dites le Zohar, tout simplement parce qu'il y avait une domination romaine sur la terre. Donc au lieu que la Kedusha, la sainteté, se trouve sur la terre, Rabbi Shimon Bar Yochai a pris la sainteté, entre guillemets, et il l'a placée, il l'a rentrée à l'intérieur de son livre, qui s'appelle le livre de la splendeur. Mais dit le Rav Kook, à partir du moment où le peuple d'Israël revient sur sa terre, tous les secrets du Zohar sortent du livre, et se replace dans les arbres, dans les tomates, dans les concombres et dans les fruits des récipients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étude de la Torah ne se trouve pas dans un livre. Si je vous pose la question où se trouve la Torah, vous allez tous me dire elle est écrite sur du parchemin. C'est faux. Ça, c'est un livre de Torah. Je parle de la Torah. La Torah est inscrite dans notre vie. Donc on n'a pas compris que la Torah est de la vie, c'est une vie, on n'a rien compris. On a l'impression que la Torah c'est un effort intellectuel, qu'on appelle en hébreu da'at.
Or, je vous rappelle la première faute du premier homme. Quelle était la première faute? Il est descendu de l'arbre de la vie pour manger de l'arbre de la connaissance. Nous sommes, chas v'shalom, dans la possibilité de recommencer la même faute, tout le temps. C'est-à-dire en croyant que la Torah est une excuse, une connaissance, pour aller vers cette connaissance, on est prêt à quitter quoi? La vie. On quitte la vie pour retrouver un livre. Et la Torah nous dit l'inverse. Tu dois sortir du livre pour retrouver la vie. La vie précède le livre. Et si tu ne comprends pas que la Torah est une vie, Ephraim, hi, la machazikim, bah, on le dit à chaque fois qu'on ouvre le Sefer Torah, c'est un arbre de vie, c'est-à-dire que si tu ne vis pas cette Torah, si cette Torah c'est une excuse pour toi, alors où est ton vécu? Tu n'es pas vivant. Tu as peut-être de la connaissance. Tu as peut-être du savoir. Tu connais peut-être quelques pages de Gemara par cœur. Mais je vais vous raconter, dans ma pièce d'étude, j'ai le plus grand stage. J'ai un ordinateur. Il connaît toutes les pages de Gemara par cœur. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas connaître encore quelques pages et encore quelques pages. La Torah, c'est quand ces pages deviennent partie intégrante de ta vie. Lorsque tu as mangé cette Torah, que tu es devenu elle. Elle est devenue toi. Et c'est ça la nouveauté de la terre d'Israël. Tiens, on s'est déplacé d'un territoire, Égypte, pas très loin, on arrive dans l'Égypte d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Grande différence. Tout ce qui se trouve en dehors de la terre d'Israël, c'est encore une Torah qui se trouve dans le ciel. Dès que vous rentrez en Eretz Israël, c'est une Torah qui s'habille dans la matière. Et là, on arrive à cette chose incroyable. Vous savez que lorsqu'on a traversé la mer, dans la paracha d'hier, de Salah, il y a eu deux sortes de personnes. Ça, c'est pas de l'hydrasine. C'est la Torah, le texte. Je vais vous lire deux passages. Vous allez écouter, et vous allez me dire quelle est la différence entre ces deux passages, qui apparemment disent la même chose. « Vayasel et tayam la charava vaybakou amayim »« Akadosh Baruch Hu a ouvert les eaux »« Vayavou bnei Israël betoch hayam bayabasa » Les enfants d'Israël sont rentrés dans l'eau, dans le sec. « Vayamayim » et les eaux sont devenus Choma, une muraille, Miminam ou Mismolam, muraille à droite et à gauche. Premier, garde-le bien en mémoire. Deuxième passage, où venait Israël et les enfants d'Israël, Al-Khou Bayabasa, Betochayam, ils ont marché dans le sec, à l'intérieur de l'eau. Ve'amaim Lahem, et les eaux sont devenues pour eux, Choma, Mimina ou Mismolam. Et les eaux sont devenues comme une muraille à droite et à gauche. Vous avez capté une certaine différence? Les uns sont rentrés dans l'eau, dans le sec, et les autres sont rentrés dans le sec, dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce que nous dit le Kli Yakar. Kanikdim, Tochayam Layabasa. Apparemment, il y a certaines personnes qui n'ont pas attendu que le chemin soit sec, ils sont rentrés dans l'eau. Et alors, ces hommes-là, si vous aviez le texte devant les yeux, si vous avez un rétroprojecteur, je vous aurais montré la choma, la muraille que les eaux forment, est marquée Chet, Vav, Memhe, choma, muraille. Dit le Kliyakar, apparemment il y a d'autres personnes qui ont attendu que l'eau s'ouvre, donc ils sont rentrés dans le sec, dans l'eau. Dit le Kliyakar, cela, la muraille ne s'écrit plus Choma, muraille, elle s'écrit Choma sans vase, qui se traduit en hébreu par colère. Ils ont réveillé la colère de Dieu. Dit le Kliyakar, c'est incroyable. À chaque fois qu'on va sortir d'Égypte,
pour aller vers la terre d'Israël, il y a des gens qui vont plonger dans l'eau, c'est-à-dire, malgré les difficultés, malgré l'état qui apparemment nous pousse vers quelque chose qui, au final, on n'arrive plus à bouger de là. Comment elle s'appelle cette mer? Yam, Souf, en hébreu, la mer de la faim. Sauf. On est mort, c'est fini. Les Égyptiens sont derrière, on a la mer devant. Qui rentre à la mer? Il y a des gens qui sont rentrés dans l'eau. Et une fois rentrés dans l'eau, l'eau s'est ouverte. Alors que 9 personnes ont attendu que le premier rentre dans l'eau, et quand l'eau s'est ouverte, ils sont rentrés dans le sec. 2 sortes de personnes. Ceux qui ont la émouna, et ceux qui ont une émouna un petit peu plus petite. Et ils sont tous les uns à côté des autres. Au-delà du Midrash, il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. Rentrer dans l'eau, c'est ne pas attendre que l'eau s'ouvre. C'est-à-dire, je rentre dans la vie et je respecte la nature telle qu'elle est. Ouvrir les eaux, attendre que les eaux s'ouvrent, ça veut dire écarter la nature. Elle me gêne, la nature. Donc je la pousse pour passer. D'après vous, quels sont les miracles les plus forts, les plus grands? Ceux qui nécessitent d'écarter la nature pour se dévoiler, ou ceux qui s'habillent à l'intérieur de la nature sans la toucher? C'est une question. Les Chachamim nous disent que le miracle le plus grand, c'est celui qui respecte la nature, qui ne la bouscule pas. Or, en Égypte, la nature a été bousculée. La nature a gêné. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? La Kadosh Baruch Hu a bousculé la nature. Il lui a dit qu'il me gêne. Pour faire la sortie d'Égypte, je suis obligé, entre guillemets, et c'est pour ça que c'est une leçon pour nous, d'enlever la nature, d'enlever ce qui me gêne pour réaliser mon miracle. La grande différence, c'est lorsqu'on rentre en terre d'Israël, vous ne voyez pas de miracle apparent. Pourquoi? Parce que tous les miracles, il y en a des milliers qui se trouvent ici chaque jour, ils sont où? Habillés dans la nature. Et il y a des gens qui se disent, en Égypte, dans le désert, il y avait plein de miracles, on les voyait. Ici, on ne voit rien. C'est complètement faux. Ici, le miracle est beaucoup plus fort parce qu'il respecte la nature, donc il s'habille à l'intérieur d'elle. Il n'a pas besoin de l'écarter. Ceux qui avaient cette émouna sont rentrés dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin que les eaux s'écartent. Et lorsque tu fais cet acte-là, tu prends conscience en réalité, même là-bas, tu es à pied sec, dans l'eau. Mais ceux qui veulent voir des miracles dévoilés, ceux-là, en fait, ont besoin d'être impressionnés. Et donc, ils enlèvent tout ce qui est naturel. Il faut que ce soit surnaturel pour que ce soit divin. Et la chrétienne nous a bien appris ce genre de choses. Tout ce qui est surnaturel, c'est extraordinaire. Ce qui se trouve ici, sur Terre, c'est nul. Regardez les toiles de maître, les tableaux du Moyen-Âge. Vous voyez des dizaines et des dizaines de toiles, des centaines de toiles, où toutes les expressions sont comme ça. Il y a des gens qui ont les bouches ouvertes vers le haut et qui regardent quelque chose qui vient d'en haut. La béatitude. Ça, c'est la chrétienté à l'état pur. Israël, c'est exactement l'inverse. Ce sont des hommes qui sont comme ça. Et qui regardent la terre pour comprendre qu'en réalité, le miracle se trouve à l'intérieur de la matière. La preuve, la plus grande des preuves. On attend tous le Messie. Le dévoilement. Or, le Mashiach a un nom. Tsemach. La plante. Vous croyez que le Mashiach vient du ciel? Erreur. Le Mashiach vient de la terre. Il pousse. Il s'appelle la pousse, la plante. Et Tsemach David Avdecha Mera Tatsmiach. Quand vous allez planter un arbre, à tout bishvat, ou peu importe, même si ce n'est pas à Tu Bishvat. Il n'y a pas une mitzvah de planter un arbre à Tu Bishvat.
Mais si vous avez planté un arbre en Israël, vous savez ce que vous voulez faire? Le plus grand acte messianique qui puisse exister. Il n'y a pas plus grand que ça. Je ne vous invente pas quelque chose. La Torah nous dit Kitavou el haaretz, lorsque vous rentrerez en Eretz Israël, quelle est la première mitzvah? Vous n'êtes pas à Athènes. Vous allez planter des arbres. C'est tout ce qu'on a à faire. Rentrer en Israël pour planter des arbres? Oui. Donc tu ne comprends pas que la nature du divin, elle s'habille dans la matière. Elle vit par rapport à la matière. Par rapport à un arbre que tu vas faire pousser ici, tu n'as pas encore compris le judaïsme. En exil, le judaïsme se trouve dans un livre. En exil, le judaïsme se trouve dans une yeshiva, dans une synagogue. En Eretz Israël, nous disent les Chachamim, le judaïsme se trouve dans la vie, dans la terre. Et là, le Rav Kook nous donne un chidouche incroyable, qui est même choquant. Choquant pour quelqu'un qui a l'habitude d'être religieux, entre guillemets. Je vous le traduis. Ceux qui comprennent l'hébreu n'ont pas besoin de la traduction. Gdola hi tvi'atenu hagufanit. Nous sommes arrivés à une période où nous demandons très fort le corps. Gouf bari anu tzrichim. Nous avons besoin d'un corps sain. It'asaknu harbe benafsiut. On s'est déjà beaucoup trop occupé de notre âme. Écoutez bien. En réalité, nos âmes ont déjà été libérées lorsqu'on est sorti d'Égypte. La Géoula que nous vivons aujourd'hui, c'est la libération des corps, pas la libération des âmes. On ne libère aucune âme, les âmes sont déjà libérées. Aujourd'hui, c'est le temps de la libération des corps. Autrement dit, de retrouver l'âme dans un corps. On l'appelle dans un langage simple, la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? C'est lorsque l'âme vient s'habiller dans un corps. Tant qu'elle n'est pas habillée dans un corps, c'est une âme qui erre. Ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez ce qui se passe? On s'est occupé d'âme, et maintenant, dit le Rav, on doit s'occuper de corps. Shachachnu et kdushat hagouf, à tel point qu'on a oublié la sainteté du corps. Si je vous pose la question, est-ce que le corps est saint? Vous allez me dire non. L'âme est sainte, mais le corps, c'est un peu. C'est la même chose. Zanachnu et abriyut agufanit veagvura. On a laissé de côté toute la puissance de notre corps et notre force. Sachachnu, c'est ça nous bastar kode. On a oublié qu'on avait une chair de sainteté. Encore une preuve, à la fin des temps, lorsque le Bétamindas sera reconstruit, qu'est-ce que dit le texte? Vaya midei chodesh bechotcho, yavo kol basar l'ispachavot. Quand le Bétamindas sera construit, chaque mois, ce sont les chairs qui vont venir se prosterner. Quelle est cette expression de la Torah, les chairs qui se prosternent? L'âme, quelque chose de beau, gratifiant. La chair. Tant que tu n'as pas compris que ta chair, elle aussi, est remplie de sainteté comme ton âme, tant que tu fais la différence entre les deux, tant que tu ne comprends pas qu'il y a une seule unité, tu es encore dans l'incapacité à faire les liens. Vous savez que l'homme est un vase. L'homme ressemble à la lettre vase. La lettre vase est un canal. Du ciel vers la terre. Cette fameuse échelle. Il y a des gens qui ne supportent pas le lien entre le haut et le bas. Alors ils font une barre au milieu. C'est-à-dire ils séparent un petit peu la tête du corps. Vous avez compris le signe que je viens de faire. C'est-à-dire il y a une coupure totale entre le monde en haut et le monde en bas. Donner à Dieu ce qui est à Dieu et donner à l'autre ce qui est à l'autre. Ça veut dire séparation totale entre le ciel et la terre. Nous, nous ne sommes pas dans cette catégorie. Nous sommes un vav à chibour. En hébreu, le vav est un vav du lien. Le vav qui relie le ciel et la terre. Comment tu relies le ciel et la terre? Ce sont des notions d'études? Non.
sont des notions réelles. Tu reviens sur ta tête, ta terre, et tu replantes tes arbres, tes fruits. Et tu sais quoi encore mieux que ça? Akadosh Baruch Hu nous dit que nous sommes appelés des plants. Akadosh Baruch Hu va nous planter sur cette terre et on va repousser. Seulement, il y a un problème. Quel est le problème? Quand on plante une graine dans la terre pour qu'elle repousse, il faut qu'elle pourrisse. Il y a une période à attendre. Et celui qui voit les choses à la surface, il devient dépressif. Il attend pendant des semaines, il n'y a rien qui pousse. Il faut arroser, il n'y a rien qui bouge. Tu ne vois rien d'apparent. Non seulement ça, mais si tu as par malheur envie de fouiller un petit peu sur la terre, tu ouvres et tu te dis, mais attends, même la graine que j'ai plantée n'existe même plus. Ce peuple soi-disant qui est venu sur la terre d'Israël, maintenant que je le vois ici, il est en déconfiture. Il y a des gens qui parlent comme ça, Chas v'Shalom. Vous ne savez pas que c'est un processus normal pour permettre à l'oxygène de rentrer dans la plante pour qu'elle repousse. Moral de Rabotai, c'est exactement la période que nous sommes en train de passer. Vous savez quel était le point commun entre les trois dernières plaies avant la sortie de l'Égypte? Il y a un point commun entre les trois dernières plaies. Elles sont toutes les trois dans le noir, dans l'obscurité. La plaie de Tophel, c'est la septième. Toute la terre était remplie à tel point qu'on ne voyait plus. Vechissa et en haaret, qui a marqué l'œil de la terre a été recouvert, c'est-à-dire le noir complet. Après, il y a la neuvième, c'est la huitième, la neuvième, la plaie des ténèbres. Alors là, il n'y a pas besoin d'expliquer. La dixième, Vayehi bachati alayla, au milieu de la nuit, la plaie des premiers-nés, aussi les ténèbres. Alors je vous pose la question, je ne comprends pas moi. On est en train d'aller vers la délivrance. Et les trois dernières plaies sont dans le noir. Comment ça se passe? Normalement, je dois monter et voir le jour de plus en plus clair. Mais Chachamim nous dit non. Lorsque tu es très proche du lever du jour, même dans la nuit, c'est la partie la plus noire. Il ne fait pas nuit noire à minuit. La nuit la plus noire, c'est juste avant le lever du soleil. Pourquoi? Celui qui ne comprend pas ça, qui perd sa émouna dans les trois dernières plaies, malheureusement, va rester en Égypte. Et c'est pour ça que les sages nous disent que 80% sont morts dans la plaie des ténèbres. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Ils sont morts dans le noir. Ils sont morts parce qu'ils étaient dépressifs. Ils sont morts parce qu'ils ne voyaient plus la lumière. Parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait vers le noir, alors que tout le monde leur disait qu'on est dans une période messianique. Et ils ont perdu la confiance. Et ceux qui ont tenu la route pendant ces trois dernières plaies, qui étaient dans le noir complet, Haochim Bachoser Raou Or Gadol, ceux qui ont la capacité de marcher même pendant qu'il fait nuit, Raou Or Gadol, cela voit la grande lumière. Le Mashiach a une yeshiva. Quand le Mashiach va venir, il va ouvrir une yeshiva. Il va y avoir une liste d'inscriptions. La Gemara nous dit qui va rentrer dans la yeshiva du Mashiach. Qui, d'après vous? Il y a trois conditions. Le test. Celui qui est capable de transformer quelque chose d'amer en quelque chose de doux. Premier test. Deuxième test, celui qui est capable de transformer le noir en lumière. Troisième test, celui qui est capable de faire revivre un mort. Vous savez ce que ça veut dire ça? Tout simplement, celui qui est capable d'être optimiste pendant que tout le monde est pessimiste. Transformer l'amertume en lumière, ça veut dire que même lorsque j'entends dans les informations quelque chose d'amer, moi je comprends que c'est un processus de délivrance du peuple. Donc je suis capable de te dire, ne regarde pas au premier degré ce que certains font le zoom pour que tu regardes, pour que tu déprimes. Ceux qui voient la mort en réalité, c'est ceux qui partent vers le bas et qui sont en train de tomber vers le noir. Regarde la vie, transforme-toi en vie. Et le noir en lumière.
Là, tu es capable de rentrer dans la yeshiva du Melech HaMashiach.
Le Rav continue. Azavnu et achaim ama'asiv. Quelle est notre plus grande maladie? On a lâché la vie. On a lâché la vie, on est devenu des intellectuels. On est parti de la vie pour retrouver soi-disant une connaissance. Or, on n'a pas compris que la connaissance était la vie. Vet, itbarirut achushim et akishur et imamesiut agufanit amuchasit mitne ira nefula. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on avait très 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 peur. Parce qu'on a peur de toucher les choses qui attachent au corps. On a l'impression que le corps est vil, que le corps n'est pas dans le code. D'ailleurs, c'est la même peur que de rentrer en terre d'Israël. Pourquoi les explorateurs ne voulaient pas rentrer ici? Quel était leur discours? Ici, nous sommes dans un monde céleste. On a le plus grand rabbin du monde, Moshe Rabbeinu. On a notre petite synagogue, la plus grande du monde, le Mont Sinaï. On a la Torah qui est donnée par Akadosh Baruch Hu. On ne travaille même pas. On a des allocations divines. Akadosh Baruch Hu nous donne. On n'a même pas besoin de se changer. Les vêtements poussent avec nous. Nos enfants sont bien éduqués. On mange tout sa chair. Et on mange même une nourriture qui vient du ciel. Et quelqu'un peut me dire ici, quel est mon intérêt d'aller maintenant rentrer en Eretz Israël? La manne, le pain céleste va s'arrêter. Les enfants vont commencer à devenir, je ne sais pas. La yeshiva, c'est fini parce qu'il faut que tu ailles bosser. Et les vêtements ne vont pas pousser avec toi, il faut même que tu ailles t'en acheter. Et ça va devenir très difficile. Tu vas commencer à planter des choses pour essayer de vivre. Je ne comprends pas quelle est la saison. Il vaut mieux pas rester en désert. Et c'est pour ça que les explorateurs ne sont pas rentrés sur terre. Or, Moshe Rabbeinu, dans le livre de Dvarim, que lui-même va dire, pendant 37 jours, il va faire un discours de 37 jours, Moshe Rabbeinu, et les premières paroles de ce livre de Dvarim, c'est « Rav lachem tevet ba'arazé », vous n'avez rien compris. Arrêtez de rester dans cette yeshiva céleste. On a reçu la Torah, c'est bien beau. « Tnu us'u lachem ubou el ha'aretz ». Prenez vos valises, tournez-vous et venez habiter sur cette terre. Et là, il leur donne toutes les frontières de la terre d'Israël. Où vous voulez, dans une église, au bord de la mer, sur la montagne, à Jérusalem, où vous voulez, mais venez ici. J'invente rien. C'est le premier chapitre du livre de Dvarim. Et donc, on n'a pas compris que la terre elle-même a la capacité de contenir le code. C'est ça notre problème. Parce que pour nous, le code en a été détourné dans notre esprit. Le code, le saint, c'est toujours spirituel. On ne comprend pas que le saint s'habille dans la matière. Emouna, vous savez ce que c'est la Emouna? Nous disent les Chachamim dans la Gemara. Emouna, je seder zraim. Quand tu veux parler de Emouna, tu parles de quoi? De semence. Toutes les Gemarotes qui parlent de quelque chose de concret s'appelle Emouna. Et nous, pour nous, qu'est-ce que c'est Emouna? La foi? Apparemment, c'est quelque chose de loin. C'est faux, encore une fois. En hébreu, le Amen, c'est traduire un potentiel et le réaliser en le manifestant. D'ailleurs, comme entraîner, le Hit Amen. Imoun, qui donne la naissance du mot Amen, c'est tout simplement une réalité. Le Amen, c'est le masculin de Emet. Okay? Vous savez comment on fait en hébreu? Ben, ça devient bat. Ben masculin, bat féminin. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un nom qui tombe en hébreu. Normalement, c'est ben. Et pour devenir femelle, on va rajouter un taf, donc ça fait benit. Comme en arabe. Seulement en hébreu, le nom tombe. Donc amen, c'est masculin. Et le féminin, c'est amenit. Et le nom tombe, ça fait emet. Donc réaliser. Réaliser, ça veut dire rendre réel. Emet. Venir dans la réalité. C'est à la Emouna. Tant que ta Emouna n'a pas été traduite dans tes actes de Emet, tu n'es pas encore dans l'Emet, tu n'as rien fait. Tu es encore dans de l'ordre de l'esprit, tu es en train de planer, tu es dans le virtuel, mais tu n'es pas encore dans le judaïsme. Tu es face à la Torah.
La Torah d'Eretz Israël vient te montrer ici que la Torah se transforme dans la vie, qu'elle s'habille dans la vie. Et donc la Kdusha s'appelle la Kdusha Sebateva, la Kdusha qui s'habille dans la nature. Ça, c'est la vraie Kdusha d'Eretz Israël. La plupart de nos erreurs, c'est de croire que la théorie est plus importante que la pratique. Or, la pratique, c'est la transformation, le vécu de cette théorie, comme dit la Gemara dans Baba Batra, « Naske ara verakia ahadade ». Tant que tu n'as pas fait s'embrasser le ciel, « Naske », c'est la terre, tu n'as rien fait. Tant que le ciel n'embrasse pas la terre, tu n'as pas encore commencé à vivre ton judaïsme. Pour que le ciel embrasse la terre, il faut que tu comprennes que tout se réalise dans cette terre. Très bizarre. Le divin se réalise dans l'homme quand l'homme est capable d'aller se réaliser dans le végétal et dans le minéral. Tant que l'homme, le peuple d'Israël, n'est pas sur sa terre, le divin n'est pas encore dans son état de dévoilement complet. Et c'est pour ça que dans la Hamida, dans la Tfila, nous avons un ordre. Quel est l'ordre de la Hamida? D'abord, on dit « Barech Aleinu et Atanag »« Béni, Akadosh Baruch Hu, cette année »« Vet kol mine tvuata » et toute la tvua, c'est-à-dire toute la semence, toute la récolte. Et une fois que la récolte est bénie, on passe à la deuxième tfila. « Tekad et Sofar gadol et Kherutenu »« Délivre-nous, Akadosh Baruch Hu » c'est-à-dire « Somme du grand Sofar ». Vous comprenez ce que c'est le grand Sofar? Le grand chauffard, c'est quand on s'est occupé de la récolte de la terre. C'est ça le grand chauffard. Il y a des gens qui restent au ras des pâquerettes et qui pensent qu'ils vont entendre un chauffard. Ils vont dire, tiens, il y a du oula. Viens d'entendre un son du chauffard. Mon Rav et Rabotai, si vous êtes venus habiter ici, c'est que vous avez entendu tous le son du chauffard à l'intérieur de votre âme. C'est pour ça que vous êtes là. Il y a un chauffard qui a sonné à l'intérieur de vous. Sans aucun son extérieur, c'est un son intérieur qui vous a fait venir ici. Ça, c'est le grand chauffard. Il y a des gens qui entendent un petit chauffard, un moyen chauffard. Ceux qui entendent le grand chauffard, c'est ceux qui viennent, parce qu'ils entendent ce son. Ceux qui entendent le chauffard moyen, c'est parce qu'ils attendent qu'il se passe certains événements pour venir. Et ceux qui entendent le tout petit chauffard, c'est ceux qui attendent qu'on leur donne un coup de pied. C'est ça les chauffards. Donc la Géoula est collée et liée à la terre complètement, intimement avec la terre. Elle s'habille dans les fruits de la terre. Et le prophète nous dit que la réalisation divine, la Géoula de Am Israël, comment on la reconnaît? D'où vous savez que nous sommes dans une période de Géoula? Quelle est la preuve? La Gemara nous donne une preuve, elle nous cite le verset dans Yéhézkiel, à la page, au chapitre 36. Et vous, les montagnes d'Israël, vous allez donner de beaux fruits. Et la Gemara, là-bas sur place, dans Sanhédrin, à la page 98, nous dit « El chaket megoulé mizé » qui n'a pas de fin de temps aussi clair, c'est « Eretz Israël notenet perotea be'ayin yafa » lorsque la terre d'Israël donne ses fruits avec un bon œil. C'est-à-dire, il y a une abondance dans les marchés. Donc, si vous avez à faire visiter quelqu'un qui vient en touriste, vous l'amenez dans un souk. C'est tout. Et vous lui montrez les fruits des Eretz Israël. Et vous lui dites, ça, c'est de la Torah qui s'habille dans de la matière. Ça, c'est du concret. C'est pas du virtuel. Tant que tu étais dans tes livres, c'était très bien. Mais si tu arrives à comprendre que ces livres, toute la douceur du livre, elle s'habille dans ces fruits que tu es en train de voir ici dans le marché, et regarde l'abondance, tu es en train de comprendre la Géoula. Une Gemara claire, simple. Pas besoin de... À tel point que le prophète dit, « Atidim bat eklesiot u bat midrashot, se yavou l'Eretz Israël. » À la fin du temps, les synagogues et les yeshivot de Khoutzlaharet vont être arrachés de là-bas pour venir ici sur la terre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'on va démonter les pierres de là-bas pour les ramener ici.
Ça veut dire tout simplement que toute la Torah qu'on a étudiée là-bas va venir réintégrer la terre. Autrement dit, ne reste pas dans le ciel. Ne reste pas au fin fond des cieux. Ne crois pas que la Torah c'est du spirituel. La Torah c'est du spirituel qui s'habille dans la matière, dans un fruit. Oublie ça. Or, il y a une évolution. Pourquoi on mange des fruits? Une évolution extraordinaire. On mange des fruits parce que le premier homme a fauté par une consommation. Premier homme, la première faute, c'est une consommation. La réparation de cette consommation va se faire par une consommation. Donc le soir de tout Bishvat, apparemment, on est en train de corriger la faute du premier homme. En faisant quoi? En mangeant des fruits. Manger des fruits de la terre d'Israël, c'est la correction de la faute du premier homme. Regardez quelque chose d'intéressant. Il y a trois tout. Tout. C'est pas un chauffard. Tout Bishvat. Un mois après, il y a tout Béhadar, pourri, c'est le 15. Et un mois après, il y a tout Benissan, c'est-à-dire Pessah. Incroyable. Tout c'était Shvav. 15. 15 du mois de Shvav, on l'a fait hier, tout Bishvat. 15 du mois de Hadar, c'est pourri. Et un mois après, 15 du mois de Nissan, c'est ça. Il y a une évolution. Qu'est-ce qu'on fait à tout Bishvat? On va consommer les fruits. Donc c'est un tikkun, une réparation relativement facile. On mange des fruits et on essaye de faire élever le monde végétal. Un mois plus tard, comme on s'est bien armé, on va prendre le jus du fruit, c'est-à-dire le vin. Pour une, on va aussi consommer, on va être à table, et la réparation va se faire dans un mitzvah, c'est la mitzvah de pourri, là aussi il faut manger. C'est-à-dire on continue la correction du premier homme, et cette fois-ci au lieu de manger du fruit, on va manger le jus du fruit, donc on va boire du vin. Un mois plus tard, le tikkun est encore plus fort, on va manger de la viande, le korban pesach. Korban pesach c'est de la viande. C'est-à-dire que le tikkun le plus difficile, c'est le tikkun de l'animal. C'est faire élever le monde animal vers le monde de l'homme. À tel point que la Gemara nous dit « Am ha'aret asur lo lechol basar ». Un ignorant n'a pas le droit de manger de viande. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas exactement comment faire élever les étincelles qui se trouvent dans la viande. Donc vous y avez une évolution. On part du végétal, on part du jus de l'intérieur de ce végétal et on part de l'animal. Élévation graduelle. Ça, c'est la force de faire élever tout le monde qui est autour de nous. Ça, c'est l'élévation de Am Yisrael. Je vous pose la question. Quelle était la faute du premier homme? Je vous l'ai dit tout à l'heure au début du cours. La faute du premier homme, c'est qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, je vous pose une deuxième question. Est-ce qu'il avait le droit de manger de ce fruit ou pas? Il n'avait pas le droit. Il avait le droit. Il y avait seulement un problème de temps. C'est-à-dire que s'il avait attendu l'entrée du sabbat, il aurait pu manger de ce fruit de la connaissance. Or, le premier homme n'a pas attendu l'entrée du sabbat et a consommé ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Je vous pose une deuxième question. Est-ce qu'il y a une possibilité que cet homme-là puisse consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même s'il n'était pas rentré dans le sabbat? Non. Et ça, je vous dis oui. S'il avait consommé avant l'arbre de la vie. Si le premier homme avait consommé l'arbre de la vie, il aurait pu après consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, la consommation de l'arbre de la vie, c'est le sabbat. Je traduis avec des mots simples. Lorsqu'un homme veut devenir intellectuel,
veut avoir une recherche intellectuelle, il est déjà dans la connaissance. S'il commence par ça, il y a un problème. Si tu veux arriver à une connaissance, il faut d'abord que tu manges de la vie. Mange la vie d'abord. Une fois que tu auras consommé l'arbre de la vie, tu pourras descendre consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si tu commences par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne sauras jamais ce que c'est la vie. Les Chachamim nous expliquent que la Géoula de Am Israël va se faire graduellement du bas vers le haut. Exactement comme la création du premier homme. Le premier homme a été créé d'en bas, et tout doucement, il est en train de monter. C'est-à-dire, au départ, c'est de la terre. À sa revanche, on le forme en forme de terre, et tout doucement, il va s'élever jusqu'à, et la Gemara va donner des heures. Première heure, il a rassemblé de la poussière. Deuxième heure, il a fait ça. Troisième heure, quatrième heure, cinquième heure, sixième heure, septième heure. Jusqu'au moment où le premier homme se dresse. Or, le premier homme se dresse à la cinquième heure. Pourquoi il se dresse à la cinquième heure? Parce qu'à la quatrième heure, il a reçu une neshama. Le Gaon de Vilna va faire un conte incroyable. Il va dire, tu sais, le premier homme, il est né, il a été créé un vendredi, le sixième jour de la création. Or, il a été créé quand il faisait jour. C'est-à-dire, si on prend une journée de 24 heures, on enlève déjà 12 heures, et nous n'avons que 12 heures de jour. Si dans les 12 heures de jour, tu commences à compter la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, la quatrième heure, tu vas t'apercevoir qu'en réalité, d'abord, les 6 jours de la création correspondent aux 6 millénaires dans lesquels nous sommes. Ça veut dire la première heure, premier millénaire. Et ainsi de suite. C'est ça. Dans le 6e millénaire, dans lequel nous sommes, chaque heure, quand vous faites la division, va correspondre à 42 ans et quelques mois. Et le Gaon de Vilna va faire un compte avec ses élèves. Il va s'apercevoir que le moment où le premier homme se dresse sur ses jambes, celui qui a été créé par Dieu, c'est exactement au niveau de la date, une date qui est très bizarre. Il ne savait pas ce que c'était encore à son époque. Il dit que ça va être une année où le peuple d'Israël va se dresser sur ses jambes. Ça va être en 5708. Vous savez ce que c'est 5708 dans un compte du calendrier hébraïque. 1948. Incroyable. Et le Gaon de Vilna nous dit qu'en 1948, entre guillemets, le peuple d'Israël va se dresser sur ses jambes. Pourquoi? Sans le savoir. Et le Shulchan Aruch va aller plus loin. Il dit, vous savez comment on sait les fêtes qui vont tomber quel jour dans l'année? Vous prenez les 7 jours de Pessah. À chaque fête, à chaque jour des 7 jours de Pessah correspond une fête. Dans un alphabet inversé. C'est-à-dire, au Aleph, on va faire correspondre la lettre Tav. Première lettre de l'alphabet, dernière lettre de l'alphabet. Donc, le premier jour de Pessah, c'est le Aleph de Pessah. Il y a quelque chose qui va commencer par Tav, dans la même date. Qu'est-ce que c'est Tav? Tisha B'Av, Tisha, Tav. Donc, le jour du 9 Av, c'est le même jour dans la semaine que le premier jour de Pessah qui est tombé cette année. Deuxième jour, Bet, va correspondre une lettre, Si. Shavuot. Vous allez voir quand est-ce que tombé le deuxième jour de Pessah, si c'était un lundi, Shavuot de la même année va tomber un lundi. Et il fait le compte la même chose, comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il arrive au septième jour de Pessah. Qu'est-ce que c'est le septième jour de Pessah? C'est l'ouverture de la mer. Et il dit, c'est bizarre, je n'ai pas encore quelque chose qui correspond à ça. Pourquoi? Parce que le septième jour de Pessah, c'est la lettre Zayin. Et à la lettre Zayin, dans l'alphabet hébraïque inversé, correspond la lettre Aïn. Il fallait attendre 1948 pour comprendre que c'était Atmaout. Et là-bas, il a laissé en blanc. Ils disent, un jour dans l'histoire, il va y avoir une fête qui correspond au septième jour de Pessah. On a traversé la mer qui va commencer par la lettre Aïn. Une folie extraordinaire. Tout ceci pour vous dire quoi? Tout simplement que
La Géoula dans l'Israël n'est pas une Géoula de l'esprit, mais une Géoula lorsque l'esprit vient s'habiller dans la matière. Et les sages nous posent la question, pourquoi la manne n'est plus descendue en Israël? Dès le lendemain, dès l'arrivée, la manne s'est arrêtée. Vous savez quelle bénédiction bénissait pour manger la manne? Amosi lechem min ha-shamayim. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min HaShamayim. Béni soit-il l'Éternel qui fait sortir le pain du ciel. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min HaAretz. Celui qui fait sortir le pain de la terre. Vous avez compris exactement la différence. Tant que nous étions dans le désert, le pain descendait du ciel. Quand on est sur la terre, c'est le sens inverse. C'est le pain qui vient de la terre. Et le Chida nous pose la question, comment ça se fait que la manne, qui est un pain céleste, c'est extraordinaire le pain céleste, pourquoi il s'est arrêté lorsqu'on est rentré sur la terre d'Israël? Et il va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas sortir d'un degré de Kodesh et se salir n'importe où. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu faisait tomber la manne, pour ne pas que cette manne touche une terre impure, parce que ce n'était pas encore la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il mettait sous la manne? Une couche de rosée, c'est-à-dire un nylon, pour ne pas que son pain spirituel touche la terre impure. Et le Chida va nous dire la chose suivante, en terre d'Israël, on n'a plus besoin de cette rosée, on n'a plus besoin de ce pain spirituel. Chaque fruit, chaque légume qui va pousser sur la terre, non seulement il n'y a pas une rosée qui est en dessous, parce que la terre elle-même a une sainteté, mais les fruits et les légumes vont pousser dans la terre. Donc la manne que nous mangeons en dehors de l'Israël, c'est chaque fruit que nous mangeons ici. Et le Rav Kook va nous dire qu'à chaque fois qu'on plante un arbre ici, il y a des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de lire dans une yeshiva. Le texte que tu ne comprenais pas hier, il y a eu 20 000 arbres plantés aujourd'hui, il y a 20 000 nouveautés qui sont en train de s'ouvrir devant toi, et tu te dis, mais c'est incroyable, hier j'ai lu ce texte, je ne l'ai pas compris. Pourquoi? Parce qu'on vient de replanter un arbre ici. Et qu'est-ce que ça fait quand tu plantes un arbre ici? Tu fais descendre un peu plus de divin dans ce monde. Le divin est en train de se réaliser lorsque chacun de nous revient sur cette terre. Quand on revient sur cette terre, Dieu revient avec nous. Veshav Hashem et Shvutra. Il y a un verset qui dit que Dieu revient et c'est avec. Shvutra avec ton retour. Quand tu reviens ici, Dieu revient avec toi. Et Rashi sur place dit, Dieu prend la main de chacun, il fait un tri, et il te prend de la main, et il t'amène sur la terre d'Israël, il te mène ici. Et chacun de nous doit se poser la question, pourquoi moi et pas chacun d'autre? Quel est le mérite? On ne sait même pas pourquoi. Pourquoi Dieu nous a choisis pour nous ramener ici? Ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons beaucoup de chance. Et qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu d'être ici. Je ne dis pas que c'est facile, c'est l'inverse. C'est très difficile. Quelqu'un m'a dit, j'ai construit ma maison à Lyon, les ouvriers étaient là tous les jours, c'était une merveille. Moi je lui ai dit, j'ai construit ma maison en Israël, une fois je voyais les ouvriers, une semaine je vois plus. Alors il m'a dit, tu vois, c'est plus facile. J'ai dit oui, c'est vrai que c'est plus facile, mais je vais te raconter une histoire. Un jour il y avait un type qui a perdu un diamant. Il me dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu me racontes? Je lui dis, écoute l'histoire. Un type a perdu un diamant dans un grand tas de sable. Et pendant une semaine, il est en train de pleurer, et tous les gens du quartier viennent fouiller avec lui pour l'aider à retrouver ce diamant. Et au fur et à mesure que les jours passent, personne ne retrouve ce diamant. Au bout d'une semaine et demie, il n'y a que son meilleur ami qui reste avec lui, et qui lui dit, Moshe, c'est sûr que tu as perdu ton diamant ici? Il dit, non. J'ai perdu là-bas. Mais pourquoi tu cherches ici? C'est le seul endroit qui est sous le lampadaire. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est plus facile que tu es en train de faire ton vrai travail. Là-bas, il fait noir, mais là-bas se trouve le diamant. Là-bas, c'est difficile, mais c'est là-bas que se trouve ton diamant. T'en as rien à faire de ta maison à Lyon. Elle est juste sous le lampadaire, mais il n'y a pas le diamant là-bas. Ici, il n'y a pas de lampadaire. Mais ici se trouve le diamant, il faut que je le cherche. C'est exactement la même chose. On n'est pas venu pour faire quelque chose de facile. C'est pas là où c'est facile que tu dois travailler. c'est là où il faut travailler. Si c'est difficile ou facile, c'est en dehors du système. C'est tout simplement là où tu dois travailler. Là où c'est vrai. Ah, c'est difficile. Nahon. Il y a trois choses qui s'acquièrent avec difficulté. La Torah, Eretz Israël et le Olam Haba. C'est comme ça que tu sais que tu es en train de toucher des choses vraies. Tout ce qui t'arrive avec facilité dans ce monde, c'est qu'en réalité, tu n'as pas de travail. Il n'y a rien qui change. C'est trois choses pour devenir un grand dans la Torah qu'il faut se fatiguer. Pour acquérir le monde qu'on appelle Olam Haba, il faut ne pas dormir pendant des nuits. Et pour atteindre la terre d'Israël et la mériter, là aussi c'est pas difficile, c'est pas facile, c'est difficile, il y a des guerres, il y a des combats. Le Kuzari, à la fin de son livre, le livre des Khazars, je vous conseille de le lire, pose la question à Rabbi Yehuda Halevi, et il lui dit, pourquoi tu veux que j'aille en terre d'Israël? Tu es en train de me convaincre de monter sur cette terre. Là-bas il y a des guerres, là-bas il y a des problèmes, là-bas, là, il y a des difficultés. Là-bas, c'est dur de gagner sa vie. Il n'y a rien de nouveau. Hein? Ça fait déjà 850 ans. Et Rabbi Yehuda Halevi lui dit, oui, tu as raison, tout ce que tu dis est vrai. Mais c'est là-bas que se trouve Dieu. Quand la maman du Rav Kook est montée en Israël, elle était dans un bateau. Il y avait des chrétiens avec elle. Et quand ils arrivent au bord de Haïfa, la mère du Rav Kook pose la question à ses chrétiens, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et les chrétiens lui disent, on est venu voir, pèleriner, là où notre Dieu est mort. Et vous, Madame Kook? Moi, je suis venu voir où mon Dieu est vivant. Ça, c'est la croix de la terre d'Israël. Tout Bishvat n'est pas une terre sainte, n'est pas une fête. Personne ne sait ce que c'est tout Bishvat. Tout Bishvat n'est pas marqué dans la Torah, n'est pas marqué dans la Mishnah, n'est pas marqué dans la Gemara, en tout cas comme on l'a fait aujourd'hui. Ce sont les Kabbalistes, il y a 450 ans de là, qui ont ramené tout Bishvat au grand jour. Pourquoi? Parce que les Kabbalistes sont sensibles à ce qui se passe dans la nature. Ils comprennent que Dieu n'est pas dans l'espace. Dieu s'habille dans toutes choses. Et sur cette terre, le divin se trouve dans sa splendeur la plus grande. Et ce sont les Kabbalistes qui nous ont ramené le goût de cette fête-là. Par contre, on mange des fruits de cette terre, nous avons une kedusha. La preuve, dans quelques mois, nous rentrons dans une septième année qui s'appelle la Shmita. Et s'il y a tellement de halakhot concernant n'importe quel fruit ici, ça veut dire que les fruits ont une sainteté en eux. Il y a tellement de difficultés, l'année prochaine, vous n'aurez plus le droit, si votre vin vient de la Shmita, de le verser pour éteindre votre bougie de la Havdalah. Parce que ça va être du vin de la Shmita, du vin de la sainteté de la septième année. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque goutte de vin, il va falloir faire attention qu'elle ne tombe pas sur la table. Quand vous allez remplir votre vin de Kiddush, il ne faut pas qu'une goutte tombe à l'extérieur. Parce que c'est du vin de la Shmita, de Kiddusha Shmita. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu s'habille dans les fruits de cette terre. Ça, c'est la nature de la terre d'Israël. Donc le Dieu qui s'habille dans la nature n'est pas le Dieu qui est en dehors de la nature. Quand on était en dehors de l'Eretz Israël, il y avait un combat entre la nature et le monde spirituel. Aujourd'hui, nous sommes ici, il y a une paix entre les deux mondes. Le monde de la matière et le monde de l'esprit ne font qu'un. Mais voilà, il raconte que nous ouvrions les yeux et que nous sortions un petit peu du système de la Torah virtuelle, de la Torah de l'esprit, et que nous comprenions que la Torah est dans la vie de tous les jours, et que nous sachions reconnaître qui nous sommes. Ça, c'est notre sortie de vie. Savoir respecter notre âme, respecter notre identité, et surtout, surtout étudier la Torah qui correspond à dévoiler cette identité. Il y a une Torah spéciale qui doit être étudiée. Ceux qui n'étudient pas la Emouna ont un grand problème aujourd'hui. Si vous voulez rester solide dans toutes les turbulences que nous sommes en train de traverser, il faut étudier des cours de Emouna. Les cours de Emouna vont vous donner référence à la période dans laquelle nous sommes, au peuple que nous sommes, c'est-à-dire savoir reconnaître qui je suis, et savoir comment le divin est en train de s'habiller en nous, dans les choses les plus simples de la vie. Si on n'a pas ces cours de Emouna, on est complètement paumé parce qu'on est en train d'étudier une Torah qu'on étudiait encore il y a 50, 60 et 100 ans.
qui ne correspond pas tout à fait à la génération d'aujourd'hui. Donc il va falloir s'adapter à la jeunesse d'aujourd'hui, aux questions d'aujourd'hui, et retrouver, c'est pas que la Torah, Chazé Shalom, qu'on a étudié avant, n'est plus bonne, Chazé Shalom, mais aujourd'hui, il faut la faire passer, la véhiculer, avec un nouveau regard, et pour avoir ce nouveau regard, il faut connaître, il faut apprendre l'identité d'Israël. Si je ne sais pas qui est l'identité d'Israël, si je ne sais pas ce que c'est le peuple d'Israël, je ne peux pas comprendre cette Torah. Donc nous avons une Torah nouvelle aujourd'hui, une Torah du peuple, Torah Chadasha Meiti Ketse. C'est la Torah des Israël. La Torah qui est liée complètement à la nature de cette terre, à la nature profonde de cette terre. Tadarabah.